Il en est de même pour notre vie spirituelle avec Dieu. Donc, revenons dans notre passage et j'aimerais qu'on reste, que vous laissiez votre Bible ouverte. Nous allons voir maintenant, mais dans quel domaine doit-on imiter Dieu notre Père? Et il y a un mot-clé dans ce passage. Regardez le verset 1. Donc, nous allons voir trois domaines dans lesquels nous devons imiter notre Père. Et le mot-clé, c'est le verbe « marcher ». Au verset 2, je répète, « et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Et marcher dans l'amour. On va revenir un peu plus, expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Verset 8, deuxième domaine dans lequel nous devons imiter notre Père. « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ça, c'est le deuxième domaine. Troisième domaine, verset 15. Verset 15. Là, par contre, ce n'est pas traduit par marcher en français, mais traduit par vous conduire. Mais le grec, c'est le même verbe. Prenez donc garde afin de vous conduire, voilà le mot, avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc, pour refléter les traits de caractère de notre Père Céleste, en tant que ses enfants, selon le passage que nous venons de lire, nous devons donc marcher dans l'amour, selon le verset 2. Nous devons marcher comme des enfants de lumière, dans la lumière. Et nous devrions marcher avec sagesse. Vous voyez les trois domaines? Amour, lumière, sagesse. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai découvert en faisant un peu de recherche, parce que je ne savais pas. Je ne sais pas dans la salle si vous le savez. À quel âge un enfant imite ses parents? Est-ce que vous avez une idée? Ah, heureusement, ça me rassure que je n'étais pas le seul à être dans cette situation. J'ai lu, à travers un document sur Internet, que vers 18 mois, l'enfant commence à imiter tout ce qu'il voit et remet en scène ce dont il a plutôt été témoin. Donc, en tant que parent, nous sommes bien entendu un des premiers modèles de notre enfant. 18 mois. Combien cela doit nous interpeller en tant que père et mère de prendre conscience de notre responsabilité, hein, pour être des modèles pour nos enfants à travers nos témoignages. Je m'adresse aux jeunes mères. Il y en a ici, ou future mère, Dieu vous a honoré en vous donnant la responsabilité de prendre soin de vos enfants. Vous savez, aujourd'hui, je ne jette pas, je ne juge pas la situation dans laquelle peuvent se trouver des mères, mais je vous dis ce que je vois dans la parole. Et ce que je vois autour de nous. Aujourd'hui, les mères ont tendance à poursuivre une carrière et confient à d'autres l'éducation de leurs enfants. Soyez convaincus qu'une nounou ne peut jamais compenser les soins dévoués d'une mère pour ses enfants. Pourquoi? Surtout d'une mère croyante, parce que vous aurez le temps de les instruire dans la vérité de la parole de Dieu, chose que ne fera jamais une nounou. Sauf si elle est chrétienne et vous l'autoriserez. Mais ça, c'est rare. Donc, je regardais dans la Bible la biographie de certains hommes de Dieu. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Parce qu'il me semble que, parlant de Moïse, je dirais que c'est de sa mère, peut-être, me semble-t-il, qu'il a appris à aimer le peuple de Dieu. Je regarde la vie de Samuel le prophète. Il me semble aussi que de sa mère qu'il a appris à aimer la maison de Dieu. Et pour voir un personnage du Nouveau Testament, Timothée, il me semble que c'est de sa mère, de sa grand-mère, qu'il a appris à aimer la parole de Dieu et qu'il a donné sa vie pour le Seigneur. Donc vous voyez la responsabilité d'une mère. Ceci dit, Revenons dans notre passage dans Éphésiens 5, verset 1. Donc, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Il faut toujours, quand on étudie la Bible, faire attention aux mots. Dieu s'exprime à travers la grammaire, la syntaxe, et je répète, c'est le pasteur Bixby. Je suis tout à fait entièrement d'accord. Et quand j'étudie la parole de Dieu, je fais attention, je surligne les choses. Et ici, on voit le mot « donc ». Il faut se poser la question, mais à quoi il se rapporte ce « donc » dans le passage? D'abord, si vous regardez un peu plus loin, je ne veux pas le lire le passage, mais du chapitre 4, verset 17 à 32, Paul développe la marche des croyants en nouveauté de vie, parce que le Saint-Esprit a changé et dans leur vie et change tout de fond en comble. Ça, c'est le contexte un peu plus général. Mais plus particulièrement, votre Bible est ouverte, regardez le verset 32 du chapitre 4. Donc, le donc aussi s'attache, si vous voulez, à l'exhortation qui se trouve dans le verset 32 du chapitre 4. Soyez donc bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et j'espère que vous êtes comme moi, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de faire? Il parle d'un sujet au verset 1 et d'un seul coup au verset 2 du chapitre 5, il change de sujet. C'était ma première vue des choses. Mais, en regardant de près surtout l'original en grec, il ne change pas du tout de pensée. Au contraire, il continue dans sa logique d'imitateur de Dieu, et en expliquant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, ceux qui sont curieux peuvent regarder que les petites particules, la conjonction de coordination qui est petite e et, dans le verset 2, vous le retrouvez au verset 3, que, il est traduit par que, et vous le trouvez au verset 4, que apostrophe, qu'on entende. Et donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il va donner une proposition principale que nous devions être des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et il va expliquer, c'est-à-dire, donc il faut comprendre le et, qui est le kai en grec, comme c'est-à-dire. Donc ça veut dire, il ne change pas de sujet, au contraire, il reste dans le même sujet, il va être plus explicite en disant, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants des bien-aimés. C'est-à-dire, vous voyez le petit t, marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3, il va expliquer encore, qu'est-ce que ça veut dire devenir donc les imitateurs de Dieu? C'est-à-dire, l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à dessein. Il va encore revenir, rattacher à la proposition principale, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, verset 4, c'est-à-dire qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc, il ne change pas de sujet, c'est vraiment, il suit sa suite logique. Et le grec le montre. Quelque chose, quand même, qui est choquant, c'est que l'apôtre Paul, quand il parle de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, va opposer l'amour à une liste, longue liste de péchés. Ça m'a fait réfléchir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire, tout simplement, quand Paul mentionne plusieurs listes de péchés, et ces péchés, vous le remarquez, sont essentiellement sur le domaine de la sexualité, touchant les actes, les pensées et la parole. Je ne vais pas le relire, mais, quoique, je veux le lire du verset 1 à 4, désolé. Devenez donc, vous avez votre Bible ouverte, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est-à-dire, la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à dessein. C'est-à-dire, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce.
Donc, ces listes de péchés, tout simplement, reflètent le cœur égoïste face à l'amour qui est décrit dans le verset 1. Et les chrétiens d'Éphèse ne devraient pas commettre des péchés comme tels que le monde autour d'eux s'autorise à le faire et qui est considéré même ces attitudes, ces vices comme normales. Et ils les pratiquaient les gens autour d'eux. Nous n'avons pas ce matin le temps de rentrer en détail hein, sur ces listes que l'apôtre Paul donne, mais je voudrais juste m'arrêter sur les deux premiers de cette liste. Quand il dit qu'est-ce que ça veut dire marcher, qu'est-ce que ça veut dire devenir imitateur de Dieu, c'est-à-dire marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, c'est-à-dire que la débauche n'est aucune impureté, et je m'arrête à ces deux-là, hein, on n'a pas le temps. Donc regardons rapidement les deux premières de la liste. La débauche, c'est un péché que l'on fait avec son corps. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où ces péchés sont pratiqués ouvertement. Mais la parole de Dieu enseigne aux enfants de Dieu de fuir la débauche. 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'impudicité, ou le mot c'est pornéa, la débauche, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche, pêche contre son propre corps. L'impureté. Ici, il me semble que ça pourrait parler des choses qui souillent les pensées. Et cela doit nous interpeller à ce que nous faisions, attention à ce que nous lisons, à ce que nous regardons, soit à Internet, la télé, que sais-je, et aussi à ce que nous écoutons. Et je dirais même qu'il faut prendre garde aux livres que nous avons dans nos maisons ou d'autres choses qui pourraient faire naître des pensées impures en nous. Vous savez, David, et j'aimerais que vous regardiez ce verset dans le psaume 101, versets 2 et 3. David avait pris la résolution pour éviter d'avoir des pensées impures à établir une stratégie, je dirais, pragmatique. Il dit ceci dans le psaume 101, versets 2 et 3. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Job a pris les mêmes résolutions. Et dans Job 31, verset 1, il dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Chers frères et sœurs, nous avons besoin, pour démontrer que nous imitons notre Père en vivant l'amour pur à l'exemple de Christ, de mettre ces stratégies dans nos vies pour éviter de tomber ou avoir des pensées impures. Et donc, c'est du sérieux. C'est de cela que Dieu demande. Selon le verset 3, regardez le verset 3. Ces péchés ne devraient même pas être nommés parmi les croyants. Car il dit, ni la débauche, ni l'impudicité, ni aucune espèce d'impureté, ni la cupidité ne conviennent aux croyants, c'est-à-dire aux saints. Donc vous voyez, cet verset dénonce, je dirais, toute couverture de respectabilité dans notre apparence extérieure, à travers notre religiosité. Mais cela cache une effroyable corruption morale, je dirais une vie de débauche et impure. Et méfions-nous, personne n'est à l'abri, et nous devrions être sérieux vis-à-vis de ce que nous enseigne la parole de Dieu à ce sujet. Nous avons eu ces quelques exemples. Donc, chers frères et sœurs, ici je vous rappelle, c'est un peu cru ce que je dis, mais c'est la parole de Dieu. Mais il fait appel à des enfants de Dieu, ce n'est pas à des non-convertis. Il s'adresse à des enfants bien-aimés. Pourquoi? Parce que ces péchés sont incompatibles avec le fait d'être chrétien. Et je dirais que c'est diamétralement à l'opposé de l'amour auquel nous devrions être des imitateurs de notre Père Céleste. Que le Seigneur nous donne par sa grâce de mettre de l'ordre dans nos vies, à sa lumière, et en obéissant à sa parole, pour éviter que ces choses vont nous laisser des traces qui sera là tout le restant de notre vie, avec toutes les conséquences que ça engendrera. J'aimerais maintenant regarder la description de cet amour que nous devrions imiter. Vous avez bien vu ici, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Donc j'aimerais regarder avec vous le verset 2, la description de cet amour que nous devrions aspirer pour être celui qui ressemble à son Père. Le verset 2 dit, « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés. » Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Je vois plusieurs choses dans ce verset. Est-ce que vous le remarquez ici? Il dit Christ s'est livré. Donc, l'essence, je dirais, à la base de cet amour, c'est le don volontaire de soi-même. Je répète, à la base, c'est-à-dire l'essence de l'amour que nous devions vivre pour ressembler à notre Père céleste, consiste à un don volontaire de soi-même. Christ s'est livré, c'est le don de soi, lui-même. C'est-à-dire, on ne l'a pas obligé. De lui-même, ça veut dire volontaire. Pour qui? Pour nous, pour chacun de nous ici. Première chose. Deuxième chose, l'exemple suprême du don de soi est celui de Christ pour les siens. Christ qui nous a aimés. Lui, l'exemple. À l'exemple de Christ. Ça, c'est, il est l'exemple suprême du don de soi, jusqu'à sacrifier sa vie pour nous, à cause de nos péchés. Ici, je vois, troisième chose, que l'accent est porté sur la notion de sacrifice dans cet amour. Est-ce que vous l'avez remarqué? Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. L'accent est porté sur la notion de sacrifice dans cet amour. Christ s'est sacrifié pour nous comme une offrande et un sacrifice que Dieu a agréé. Et c'est le seul que Dieu a agréé pour nous sauver. Quatrième chose que je vois, l'accent est porté sur qui est l'objet de cet amour. Oh, je ne m'exprime pas correctement. Qui est l'objet de cet amour? Deux fois, nous a aimés, vous et moi. Pour nous, vous et moi. Et posons-nous la question, mais quoi en moi? Qu'est-ce qui mérite que je sois l'objet de cet amour? Posez cette question. Qu'est-ce qui mérite en moi que Dieu eut égard et me fasse grâce et m'aime? Qu'est-ce qui le mérite? Mais c'est pour cela, pour nous, un Dieu trois fois saint, ce que je mérite, ce n'est pas de tel amour, c'est la colère de Dieu. Ça donne à réfléchir. Cinquième chose de ce que je vois dans ce verset, ce don de soi volontaire devrait aussi caractériser la vie de tous les chrétiens. Quand il dit marcher, c'est au pluriel. Et comme vous savez très bien, je viens de le mentionner tout à l'heure, c'est les enfants de Dieu bien-aimés. Donc c'est au pluriel, il s'adresse à des chrétiens qu'il qualifie de bien-aimés. Et l'exemple qu'est Christ n'est pas simplement une révélation d'amour à admirer. Oh, c'est formidable. Le passage nous enseigne, c'est pas seulement quelque chose qui nous est révélé pour qu'on l'admire. On puisse être émerveillé, mais ce que dit Paul ici, c'est aussi un exemple à imiter. C'est pas seulement de nous émerveiller devant. Oui, nous devons l'être, être reconnaissants chaque fois, mais nous devrions imiter. Regardez 1 Jean 3,16, s'il vous plaît. 1 Jean 3,16, où l'apôtre Jean dit la même chose. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Vous voyez encore nous, vous et moi. Nous aussi maintenant, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc ce n'est pas seulement un exemple à admirer, mais c'est un exemple à imiter et à pratiquer. Il me semble que pour pouvoir couvrir le sujet, le thème de l'amour, il est indispensable de regarder les passages pertinents dans la Bible. Il y en a tellement, mais j'ai choisi un qui a le même esprit que l'apôtre Paul ici, c'est l'apôtre Jean, qui traite du même sujet, mais sous deux arrière-plans différents, évidemment. Vous savez que marcher dans l'amour, comme Christ a marché, il a été jusqu'au bout à donner sa vie pour nous sauver, nous qui étions ses ennemis. Romains 5, 5, Paul disait que cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, ayant cet amour en nous, nous devions donc aimer les autres autour de nous. Et comment ça se manifeste? Trois choses qui me viennent à l'esprit. D'abord, que cet amour doit s'exprimer envers le monde perdu. De quelle manière? En leur annonçant l'évangile. Pour qu'ils trouvent le salut en la personne de Jésus. Jean chapitre 3, verset 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Nous devons annoncer de tels messages à ceux qui nous entourent, là où Dieu nous place, que ce soit au travail, à l'école, au voisinage, partout où Dieu nous place, pour annoncer qu'un jugement attend ceux qui rejettent le salut offert en Jésus-Christ. Mais pour ceux qui l'acceptent, ils ont la vie éternelle. Ils sont admis à être dans la présence de Dieu le jour où ils doivent partir de cette terre. On doit régler cette question. Si ce n'est pas votre cas, réfléchissez-en. On a en parlé au premier message concernant être comme des enfants pour le salut. Deuxième chose, cet amour s'exprime à travers notre amour pour la parole de Dieu. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il y a encore l'exemple dans l'obéissance à la parole de Dieu. La preuve d'amour, c'est obéir à ce qu'il nous dit, de pratiquer ce qu'il nous enseigne. Et Christ l'a fait. Vous voyez bien dans ce verset? J'ai gardé les commandements de mon Père et nous devrions faire de même. Oui, l'obéissance à la parole de Dieu est la preuve que nous demeurions dans l'amour de Dieu à l'exemple de Christ. Je reviens maintenant, un troisième point, je dirais que cet amour s'exprime aussi par notre amour envers nos frères et sœurs que le Seigneur nous a donnés et avec qui nous passerons toute l'éternité. Maintenant, comme je vous ai dit, il faut regarder par ailleurs d'autres éclairages traitant du même sujet. Et je vous invite à regarder 1 Jean chapitre 3, versets 14 à 17. On va relever quelques éclairages que nous n'avons pas eu dans Éphésiens, mais qui est souligné dans ce passage qui traite du même sujet. 1 Jean chapitre 3, versets 14 à 17. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Verset 15, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Regardez bien, pour les frères au pluriel. Verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère, on passe du pluriel au singulier, son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Regardons quelques éclairages traitant ce sujet de la part de l'apôtre Jean. Il commence, nous savons. C'est-à-dire, nous connaissons comme un fait. Comme le fait que la terre tourne autour du soleil, c'est un fait, on l'admet. De même, on doit admettre, dit l'apôtre Jean, que nous sommes passés de la mort à la vie. Et quelle est la preuve? Nous aimons les frères. Regardez au verset 14. Au verset 14, nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Le verset 14, Jean insiste sur le fait que l'amour est le test le plus évident que l'on possède la vie. Je répète, l'amour est le test ou la preuve le plus évidente que l'on possède la vie. L'amour que nous portons pour nos frères et sœurs manifeste la réalité spirituelle que nous avons, la vie éternelle. Car nous sommes appelés de la mort à la vie. Donc c'est une preuve, une évidence que nous avons la vie éternelle. Mais avez-vous remarqué que le contraire est aussi vrai? Le contraire est aussi vrai parce que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. J'ajouterai, d'après d'autres passages, il est dans les ténèbres. 1 Jean 2, verset 11. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. C'est pour cela que ceux qui s'opposent à Christ haïssent ceux qui aiment Christ. Christ l'avait dit. Et ici, au verset 15, il précise, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons vu l'amour pour les frères et la démonstration visible que nous avons la vie. Verset 15 maintenant, Jean dit que la haine de son frère est l'évidence de la mort spirituelle. Ça veut dire que quelqu'un n'est jamais passé par la nouvelle naissance. Comme je vous ai dit auparavant, si vous me suivez, dans Éphésiens 5, Paul n'oppose pas à l'amour son contraire, c'est-à-dire la haine, mais il donne une liste de péchés qui, en fin de compte, est nuisible, comme je vous l'ai dit, à l'amour que Dieu veut nous voir imiter. Par contre, ici, si vous l'avez remarqué, Jean oppose l'amour et la haine. Il va toujours parler en binaire. Il va opposer la lumière aux ténèbres. Il va poser toujours des choses binaires. Et ici, il oppose cela dans quel but? Il va enseigner par contraste. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Remarquez, en ouvrant votre Bible, en regardant là-dessus, que la haine est négative, car il cherche à nuire l'autre, n'est-ce pas? Parce que cela conduit à agir contre lui jusqu'à en arriver au meurtre. C'est pour ça qu'il dit, quelqu'un qui haït est un meurtrier. Et ça nous rappelle, n'est-ce pas, de l'enseignement de Jésus sur le sermon sur la montagne. Donc ici, Jean assimile celui qui est au meurtrier qui souhaite la perte de celui qu'il haït. Mais en contraste, voilà l'enseignement ici, l'amour par contre est positif, dans le sens parce que l'amour, il cherche le bien de la personne. Il conduit à faire tout son possible en faveur de l'objet à aimer, même jusqu'au point à faire de sacrifice de soi-même. Vous voyez, il a dit, il a donné sa vie pour nous. Verset 16 du chapitre de Jean, chapitre 3. Et vous savez, l'apôtre Jean tellement était proche du Seigneur, et il a entendu le Seigneur parler beaucoup de cette expression, il a donné sa vie pour nous. Et il le répète, j'ai 4, 5, 7, 7 versets où il rappelle toujours concernant la personne du Seigneur. Jean 10, verset 11, c'est fort pour lui. Il ne peut pas s'empêcher de le dire. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, parce que Jésus est le bon berger. Jean 10, verset 15, je donne ma vie pour mes brebis. On parle du Seigneur. Le Père même, parce que je donne ma vie. Verset 18, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Voyez. Et pour faire comme un paquet, résumant tout cela, il dit au verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous voyez, comme nous l'avons vu avec Paul, l'aspect du sacrifice dans cet amour. Amour qui se sacrifie. Il n'attend rien en retour. Il n'attend rien en retour. Et au verset 16, regardez dans 1 Jean dans lequel nous sommes. Au verset 16, il explique maintenant l'essence, ce qui est à la base de cet amour. Il va rejoindre l'apôtre Paul comme nous venons de voir dans Éphésiens 5. Quelle est à la base de cet amour? C'est le don de soi vu dans l'exemple de Christ, qui s'est donné lui-même. Il dit, c'est pas seulement admirer, mais aussi à faire. en étant des imitateurs. Et ça doit caractériser la vie de tous les chrétiens. Et au verset 17, il continue son développement. Il dit, si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère, je vous ai dit, il passait du pluriel les frères à son frère dans le besoin, et il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Verset 18, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, le véritable amour n'est pas uniquement dans le sacrifice. Oui, Christ a souffert en se sacrifiant jusqu'à donner sa vie. Mais aussi dans les plus petits dons. Je dirais que peu d'entre nous ici sont appelés à offrir leur vie comme des martyrs, à cause de leur foi au Seigneur. Par contre, nous avons constamment l'occasion de venir en aide aux frères en difficulté et dans le besoin. Un commentateur disait de ce verset 17, il dit, « L'amour et l'empressement à abandonner ce qui a de la valeur pour notre vie, afin d'enrichir la vie d'un autre. » Et aussi C.S. Lewis qui disait ceci, quand Jean parle dans le verset 17, hein, on parle du pluriel, on passe maintenant au singulier. C.S. Lewis disait à ce sujet, il est plus facile d'être enthousiaste pour l'humanité avec un H majuscule, humanité H majuscule, que d'aimer individuellement des hommes et des femmes en particulier, ceux qui ne sont pas intéressants, peu attirants et je dirais en plus, qui ne nous rapportent rien en retour. Ça, c'est l'état de cœur de l'homme. Et vous savez, chers frères et sœurs, ce n'est pas cet amour qui attend en retour dans lequel nous devons imiter. Nous avons vu que professer être des enfants de Dieu tout en vivant dans le péché est contraire et voire incompatible à la marche dans l'amour. C'est ce que Dieu désire nous voir. Nous avons vu que marcher dans l'amour consiste à un don volontaire de soi-même. Marcher dans l'amour demande un sacrifice. Et ce sacrifice est incalculable. Ça peut être votre temps. Ça peut être votre argent, ça peut coûter votre santé, ça peut vous coûter plein de choses. Mais ça demande un sacrifice qui n'attend rien en retour. Marcher dans l'amour se traduit par le désir et la joie comme un fardeau de venir porter l'évangile à ceux qui sont perdus. Marcher dans l'amour se manifeste par notre désir, notre appétit pour la parole de Dieu. Jésus l'a montré. Nous devions imiter son exemple. Marcher dans l'amour se manifeste aussi par notre amour pour nos frères et sœurs. Et Jean nous a dit que l'amour pour les autres est le test, la preuve évidente que l'on possède la vie. Et la haine de son frère est la preuve de la mort spirituelle. Peut-être ce matin, parmi vous et des auditeurs ici, vous n'êtes jamais passé par la nouvelle naissance pour devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire être admis dans la famille de Dieu pour qu'il devienne votre père. Ce n'est pas votre cas. Vous savez que vous pouvez devenir, on avait parlé de cela, pour être admis dans le royaume de Dieu, devenir enfant de Dieu, il faut un demi-tour, nous l'avons dit. Il faut devenir comme un petit enfant. Ne pas rester à l'enfance, mais par leur attitude, par une simple confiance totale dans ce que le Seigneur a fait en prenant votre place. Vous qui méritez d'être cloué sur la croix, mais il a pris votre place et vous dites, Seigneur, sauve-moi, il a pris ma place, je veux de cela. Je veux devenir son enfant. Et c'est seulement ainsi, c'est la condition unique, pour que je puisse imiter Dieu. Vous ne pouvez pas imiter quelque chose dont vous n'avez pas les ressources en vous-même. Sinon, c'est une hypocrisie. Mais les enfants de Dieu ont la vie de Dieu en eux, ont l'Esprit de Dieu, parce que cet amour est répandu dans son cœur. Ils peuvent imiter le Père Céleste, comme il demande. Mais, pour ceux qui font déjà partie de la famille de Dieu, en tant qu'enfants bien-aimés, soyons des imitateurs de notre Père en ce domaine de l'amour. Et que le Seigneur puisse nous donner son approbation sur notre vie. Comme l'apôtre Jean envers Gaius, en 3 Jean 15. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Je répète, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ces temps, ce sujet si vaste, où dont nous sommes impuissants pour être des imitateurs dans ce domaine. Mais tout nous le demande de l'être, parce que c'est ainsi qu'est révélé ce qu'est notre Père. Christ est venu sur terre pour démontrer ce cœur d'amour, ce cœur plein de grâce du Père Céleste, en son Fils, qui est venu jusqu'à se sacrifier, à donner sa vie comme le rançon, pour que pardon puisse être accordé, et que nous puissions être sauvés. Fais Seigneur, dans le cœur. Donne-nous, en tant qu'enfants bien-aimés, aussi de demeurer dans cet amour. Il y avait une longue liste de péchés. On n'a pas pu tout voir en détail. Mais notre nature, tellement égoïste, pensant qu'à nous-mêmes, nous empêche parfois d'obéir dans ce domaine. Aide-nous par ta grâce à corriger ainsi et à devenir celui qui est une réponse aux besoins de l'autre à côté et se soucier de leur bien-être. C'est ce que Christ a fait. Il se souciait de notre bien-être spirituel. Il se souciait de notre vie, la vie éternelle. Parce qu'il veut nous voir dans la gloire, comme il disait, ce que tu m'as donné, je désire aussi qu'il soit avec moi dans la gloire que tu m'avais donnée quand j'étais auprès de toi. Oui, il veut conduire beaucoup de fils à la gloire. Fais-le aujourd'hui.